Oui, salut Marco, c'est Yves là, à l'appareil, Yves Robic. Voilà, alors, oui, ça va. Donc là, on est en train de se poser. Alors voilà comment ça se passe. Moi, je vais prendre un bus là, à 15h50 à Cré. J'arrive sur le coup de 16h30 à 10. Et du coup, je vais loger sur 10 ce soir dans un lieu qui s'appelle La Forge. Et toi, tu seras à la soirée de présentation ce soir? Ok, ben je vais voir ça comme ça, alors ce serait bien, effectivement. Bon, ben super. Et ben alors on fait... j'ai une petite... Un instant, il y a Louise qui est avec moi.
Il y a deux arrêts, il y a l'arrêt Gare et l'arrêt Saint-Pierre.
Alors il y a deux arrêts pour 10, c'est l'arrêt Gare et l'arrêt Saint-Pierre. Je prends lequel?
La rue Saint-Pierre.
La rue Saint-Pierre, ok. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Au revoir.
Bruxelles, la ville, la vallée de la Drôme, la rivière. Quelques heures suffisent pour relier deux territoires. Le TGV traverse la frontière, puis traverse le pays. Le TGV dépose Yves, que je viens chercher en auto. Yves et ses micros. Bruxelles s'invite en Val de Drôme. Ici, on voit l'horizon à travers les montagnes. Elle laisse passer les rayons du soleil. Elle laisse circuler les idées. Quelques secondes suffisent pour respirer un bout d'atmosphère. Quelques jours pour avoir envie de partir ou de rester.
C'était ce stress de ne pas savoir déjà où est-ce qu'on allait accoucher, de faire le deuil d'accoucher, en tout cas essayer d'accoucher chez nous, dans notre endroit qui était beaucoup plus confort et qui était ce qu'on souhaitait. Et aussi le fait d'avoir dû faire comme un mini déménagement en fait. Au final, à 9 mois de grossesse, on était vraiment juste deux dans la tente et puis avec les sages-femmes pas loin, mais c'était pas du tout confort. Et au final, j'ai dû aller à la maternité de Valence parce que j'ai eu de la fièvre. Et là, du coup, pour moi, ça a été vraiment un peu comme l'enfer.
Alors, Yves et moi, on expérimente comme on partirait à l'aventure. D'abord, chacun ferme les yeux, puis pose son doigt sur une carte, presque au hasard. Yves ira voir Marco. Il sera son point de départ.
Alors le travail de crieur, je le présenterais comme une action, c'est une action militante, déjà en premier lieu, qui a démarré en fait il y a 5 ans. Ici à Die, il y a eu l'élection du nouveau maire. Et ce maire, donc, pour son 14 juillet, a interdit un échange de vêtements, une petite manifestation qui se passait tout le temps, en disant, voilà, donc à 17h, il faut que tout le monde soit parti, autrement on appelle les CRS. Bon. Donc en fait, ça s'est passé, mais les CRS sont quand même venus à 17h. Mais il y avait encore un peu de monde sur la place qui traînait. On trouvait bien d'arracher les derniers vêtements qui étaient sur les arbres. Les terrasses étaient pleines de touristes, tout ça. Et en fait, ils ont entouré ce qui était sur la place, qui restait un petit peu comme ça, en bagnodant. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes, alors qu'il n'y avait aucun lieu de le faire. Et puis, ils ont cogné, tabassé au sang 2 personnes. Donc, ces personnes ont été emmenées à Valence. Ils ont eu chacun un procès.
Et donc, l'activité de crieur que tu fais maintenant, elle est née à ce moment-là ?
Alors, on a créé directement après une assemblée populaire, pour s'indigner, bien sûr, par rapport à ces exactions. Et on a fait un sitting devant la mairie, et puis on a commencé à réfléchir. Quels étaient les moyens qu'on avait pour continuer, pour brasser la parole. Et donc avec une amie qui est conteuse, on a pris ce moyen pour dire, ben voilà, on sera sur la place publique pour crier un peu les messages des gens.
Et il s'agissait de relayer la parole des gens autour de ce qui s'était passé avec cette intervention de la police ?
Oui, il y a eu des criers vraiment autour de l'Assemblée populaire, sur les manifestations qui sont passées à Die, et ensuite une régularité quand on pouvait, donc sur le marché tous les samedis, et qui dure jusqu'à maintenant. Voilà.
Concrètement, tu procèdes comment ?
Disons dans le temps, dans le timing, j'arrive à 9h ou 9h30 le matin sur la place du marché. Ensuite, je place ma caisse où je vais faire la criée pour demander autour aux commerçants si tout va bien. Et ensuite, c'est la récolte. Alors, souvent, on a des thèmes. Et aujourd'hui, bon, voilà, c'était sur la fermeture de la maternité qui s'est passée il y a 1 an. Qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les besoins ? Quels sont les témoignages aussi des femmes, des hommes qui subissent la fermeture de la maternité ? Après, la récolte directement avec les gens sur le marché, c'est souvent très, très joyeux, en fait, comme contact. Bon, on parle beaucoup, hein, toute la matinée. Bien sûr, j'ai un rôle. Hein. Alors pour cela, je m'appelle Jean Gouaille, crieur public autoproclamé de la ville de Die.
Là, tu es encore avec ta tenue, avec le chapeau melon, le petit débardeur fleuri.
La criée, c'est quand même aussi un travail d'acteur. Avant la criée, on chauffe un peu les gens, on chauffe la salle. Là, c'est dans la rue, mais il y a un petit travail de chauffage, puis de se sentir tous ensemble, de savoir qu'on peut rire, qu'on peut applaudir, qu'on peut râler, qu'on peut sur chaque message. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent parce que c'est leur parole. Ils sont là, ils ont écrit un message, ils viennent là pour l'écouter.
Après leur rencontre, Marco lui conseillera une autre personne.
Tu as des pommes de terre.
Oui.
Que tu peux...
Alors...
Tu veux que je te serve ?
Non, je fais mes pommes de terre. Et
Moi ? J'irai faire ma première visite à Marie-Agnès.
Et elle vient d'où ?
Je l'ai rencontrée parce qu'elle est, depuis quelques mois, elle est bénévole à Radio Saint-Ferréol.
Ah, d'accord.
Elle a fait un peu de la radio avant dans une radio associative à Annonay, à Radio DC.
Ouais.
Et elle est dans une phase de vie un peu particulière, dans une espèce de tournant, puisque elle a décidé d'arrêter son activité professionnelle. Elle est venue dans la région, en fait, dans la vallée de la Drôme, parce qu'elle connaissait un petit peu, et elle est arrivée en fait avec sa voiture, qui est un espèce d'utilitaire, avant l'été, en se disant bah, « je vais un peu sentir ce territoire ». Et je vais dormir dans ma voiture, pour l'instant, le temps de sentir ce territoire. Enfin, elle est venue flairer comme ça, la vallée de la Drôme, en y cherchant une autre vie, un peu, j'ai l'impression. À partir d'aujourd'hui, elle va aller dans une maison où elle est un peu allée cet été, de quelqu'un qui n'est pas là, dans un village qui s'appelle Montclar-sur-Gervanne, c'est à 20 minutes à peu près. Et la maison, elle est en vente, donc en fait, elle est un peu vide. Et elle m'a dit, viens, essaye de venir. Je lui ai dit que je te laissais vers 4h.
Ouais.
Et du coup, elle m'a dit, c'est parfait parce que tu vas arriver pour le coucher du soleil. Et c'est un village qui est un peu perché. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est un point de départ intéressant. Et c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup de solitude, mais qui est beaucoup dans le lien social aussi.
C'est important de penser à soi en tant qu'individu pour pouvoir être avec les autres. C'est pas de l'égoïsme, c'est être droit dans son individualité. C'est très important d'être plein avec son vide à soi. J'ai une particularité qui n'est pas toujours aidante, c'est que je ressens beaucoup, j'en sens les gens. Je ressens et je vois un peu à travers et je ressens un peu les gens, dans quel état ils sont. Donc le retour à soi, à son seul, à sa solitude, est aussi fondamental pour moi. Aujourd'hui, je fais l'expérience depuis quelques semaines, je ne vais pas dire quelques mois parce que c'était un peu plus confortable il y a quelques mois pour moi, mais depuis quelques semaines, je fais cette expérience très brutale en fait, de sans argent. Et comment tu fais pour vivre sans argent? Donc ça ramène aux besoins. Manger, dormir. Ça, c'est les fondamentaux. Et après, le reste, c'est quoi vivre sans argent? Alors peut-être, on pourra dire, mais tu te rends pas compte, on peut pas vivre sans argent aujourd'hui. On s'en fout. J'expérimente ce qui me parle au fond de moi. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais mets-toi au RSA, mais va demander, c'est pas normal que t'aies pas droit au RSA. J'ai dit, j'en voulais pas du RSA, parce que ça me met dans des choses auxquelles je ne crois pas. C'est pas moi, c'est pas du tout moi. C'est des choses enfermantes d'un système, etc., etc. Ok, ça a des conséquences. Peut-être ça a des conséquences. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aller expérimenter, pas de subir des systèmes ou des dépendances. Et ce que je trouve de beau dans tout ça, c'est ce que je vais connecter chez les gens. Ce que je vais connecter chez les gens, c'est ce qu'ils ont, pas dans le porte-monnaie, c'est ce qu'ils ont dans le cœur, c'est ce qu'ils ont dans le regard. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Parce qu'on pense tout à travers l'argent. Et ça, c'est pas possible. On voit là, aujourd'hui, les limites. Regardez tous ces petits gilets jaunes qui souffrent le martyr parce qu'ils en chient, parce que c'est des esclaves d'une société malade. Mais sortez de là. Bon Dieu, moi, je dis à tout le monde, faites des burn-out et allez vous balader dans la nature. Je dis à tout le monde, mais pars, prends ta voiture, prends ton sac à dos, on s'en fout. Pars, va vivre les choses.
Sous un pont à Cray, tu t'es enregistrée. Tu disais quoi d'ailleurs?
Dormir sous les ponts. Dormir sous les ponts. En fait, j'ai un lien très particulier avec la rivière, mais depuis très longtemps. Et ici, ça a pris une dimension assez phénoménale hein, cette année. Avant les crues de l'automne, comme souvent, je me baladais sur le bord de rivière. Et j'ai eu la curiosité d'aller sous ce pont, parce que l'accès était facile, du coup, il n'y avait pas tellement d'eau, et j'y suis allée. Et j'ai commencé à chanter, à parler, et pour voir la résonance, en fait, la vibration qu'il y avait. Et je suis allée crier, dormir, et puis d'un coup, c'est sorti, dormir sous les ponts. Dormir sous les ponts! Et ça, c'est aller toucher un truc qui était vraiment super au fond de moi. Et l'intuition est arrivée. Monte sur le pont. Voilà, moi, j'entends les trucs. Monte sur le pont et va demander aux gens. Et ça n'a pas duré. Hein. J'étais même pas encore sur le pont. Il y avait déjà des gens sur la berge que j'ai interviewés. C'est quoi pour vous dormir sous les ponts? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et j'ai été touchée, et il y a des gens qui étaient complètement saisis, fascinés par ça. Et qui étaient tout de suite impactés, ça, comme quoi ça a une mémoire, un imaginaire collectif qui est très douloureux.
Est-ce que tu accepterais de me dire sous quel pont tu allais crier? Et si oui, est-ce que tu accepterais que j'aille crier sous ce pont?
Ah, mais avec plaisir, va crier sous ce pont. C'est simple, hein, c'est le pont qui traverse Cré. C'est le pont en pierre qui est en travaux, là. Voilà, c'est celui-là. Il faut oser crier, ouais. Vider ses tripes.
Et qu'est-ce que je pourrais crier?
Ben, je sais pas, tu pourrais crier qui tu es. Moi, j'adorerais que tu cries qui tu es.
J'essaierai. Si la rivière le veut bien.
Essayer n'est pas valide. Fais-le ou fais-le pas, mais essayer, c'est pas...
Et j'irai, ça c'est sûr.
Voilà.
Et je ferai ce que je pourrais faire.
Ouais.
On n'est pas seul. C'est même pas une question pour moi, en fait. On n'est pas seul, c'est une affirmation. Justement, il y a peut-être cet esprit dans le Diwa. Justement, l'esprit Diwa... ou ce territoire qui est en quelque sorte un nid, quelque part, avec ses montagnes environnantes qui protègent un petit peu comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui s'y sentent bien, je pense, pour ça. Et comparent même les montagnes à des géants qui sont allongés et qui sécurisent les personnes. On n'est pas seul. Je pense que c'est beaucoup de solitude. C'est beaucoup de gens solitaires aussi, le Diwa. En tout cas, du moins ceux qui viennent y vivre. Après, il y a des... Alors étrangement, je remarque, hein, je ne sais pas si c'est une généralité, mais beaucoup de couples qui viennent ici se défont très très vite. Mais ouais, il y a un besoin de solitude, je pense.
Je te vois beaucoup... On s'est croisés pas mal de fois dans la ville. Toi aussi, quelqu'un plutôt de solitaire. Et en plus, tu me disais que tu viens de Paris, il y a pas mal d'années déjà maintenant, mais ce rapport à la solitude, c'est aussi quelque chose qui t'a amené ici?
Non, ce qui m'a amené ici, c'était peut-être rechercher du calme en étant à Paris. Je trouvais que c'était un climat, à l'époque c'était sous Sarkozy, et il y avait une montée de tension vraiment dans les quartiers où j'habitais. Ça s'est très vite vu, hein, en quelques mois. Et je voyais la violence partout, même dans les bus. Les gens s'énervaient pour rien. Et c'est assez contraignant. Voilà. En plus, je travaillais dans un collège où là aussi, il y avait beaucoup de tensions parce qu'une baisse d'effectifs, du personnel. Et c'est quelque chose que je ne supportais plus. Voilà.
Je suis à Piégros, la Clastre, à une dizaine de kilomètres de Cré. Et je vais aller voir Evelyne, que m'a indiqué Marie-Agnès. J'ai rendez-vous chez Evelyne, c'est 7 rue du Cadran Solaire. Ah oui, il y a un cadran. Il y a un cadran solaire, effectivement. L'ombre fuit, la mort s'approche, il y a écrit. Il n'y a pas de soleil.
C'est impressionnant.
Oui, il est gros, hein.
J'ai cru que c'était une petite bête.
Ouais, ouais. On dirait un peu un petit animal.
Un très grand prix.
Bonjour.
Louise,
je m'appelle Louise.
Enchantée, oui. Ok, sur le message.
Vous voulez que j'enlève mes chaussures?
Vous allez marcher sur de la moquette, donc à choisir, je préfère.
Ouais.
Je peux vous passer des chaussettes si vous avez froid, mais...
Oh, sur la moquette, ça devrait aller.
Oui. Vous voyez, il fait chaud, de toute façon.
Ah oui, il fait bon. Je ferme la porte?
Oui, s'il vous plaît. Que la chaleur reste, ouais, tant mieux.
Il ne faut pas qu'elle s'échappe, effectivement.
Vous l'avez rencontrée comment, Marie-Agnès?
Moi, je dis toujours que je ne suis pas quelqu'un de qui est dans la religion, loin de là. Au contraire, j'ai eu tendance d'ailleurs à la rejeter assez violemment. Maintenant, voilà, ça existe et puis ça ne me concerne pas. Mais par contre, je pense que je suis dans la spiritualité. Et donc, chacun appelle ce qu'il veut comme il veut. Mais moi, je pourrais dire... L'ange, voilà. Je dis que j'ai un ange qui se promène à côté de moi et que, voilà, j'appelle plus les rencontres que c'est du hasard, mais que l'ange me met quelqu'un en face de moi et qu'il y a quelque chose qui m'est dit, quelque chose qui m'est donné, quelque chose qui m'est proposé, quelque chose qui est à transformer. Donc Marie-Agnès est venue dans une boutique d'une jeune femme qui fait une boutique assez étonnante, qui a créé une boutique assez étonnante à Cré, que j'ai accompagnée, soutenue, etc., etc. Et puis, il s'est trouvé que Marie-Agnès s'est passée par là et a proposé de poser ses œuvres, puisqu'elle fait de la peinture, pas de la peinture, du dessin à langue de Chine, très joli. Et Mélanie m'a appelée en me disant « J'ai discuté avec elle et tu devrais la rencontrer. D'abord, elle vit dans sa voiture. Voilà, peut-être que vous avez quelque chose à faire ensemble. » Donc, elle est effectivement venue. Et nous avons échangé pendant 2 heures. Voilà, je pense qu'on s'est rencontrés d'âme à âme. Et je pense qu'on parle la même langue. Voilà. Après, elle a une situation un peu particulière qui pourrait inquiéter bien des gens. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Je sais que c'est un choix. Mais c'est l'hiver, et l'hiver avec ce que ça veut dire. Avec ce que ça veut dire d'inconfort. Voilà. Donc après, j'ai alerté mes Chibanis, et mes Chibanis m'ont dit qu'elle nous appelle, il y aura certainement un petit coin chaud chez nous pour l'accueillir. Voilà, donc je ne la connais pas, mais en fait, je la connais.
Ta boîte aux lettres, là-bas, elle est placée au coin de la boulangerie Roger. Hein? Sur le... Et l'annonce, la criée va bientôt commencer. Dans 2 minutes, devant la sous-préfecture, la criée de vos messages. C'est une belle criée, elle est fraîche, la criée, elle est fraîche.
Et des gens sont sur votre chemin, parce que vous les avez croisés ici ou là, parce qu'il n'y avait pas d'attente particulière, parce qu'on était sur la même longueur d'onde, et qu'on a ces notions-là d'accueil, ou je sais pas, et qu'on a cette valeur de cœur, tout simplement, cette authenticité de cœur et d'être, on est en capacité d'accueillir quelqu'un qui a besoin de bouffer, quoi. Où on est en capacité de dire « Ok, si tu veux, je prends un moment avec toi, on discute. » Eh bien oui, on peut manger, on peut dormir chez quelqu'un, on peut... Et c'est d'une puissance inouïe. Moi, je ne sais pas aujourd'hui encore tout à fait... c'est pas facile pour moi d'être dans cette maison, voilà, ce soir et demain. Parce que j'avais croisé quelqu'un au printemps, une femme sauvage, et on s'est croisé 2-3 fois en une année... Et on a accroché sur certains points, on a eu de grosses discussions, et on s'est retrouvés là par un coup de fil. Oui, mais moi, ça fait quelque temps que je suis dans la maison, mais là, ce week-end, je suis pas là. Je te laisse la maison. C'est quand même d'une puissance inouïe d'avoir cette confiance. Mais ça, j'en ai croisé d'autres, je pourrais citer d'autres exemples de gens accueillants. On ne sait pas pourquoi, il vous met un mot sur la table, il vous dit « Sens-toi libre, sens-toi chez toi. » C'est quand même pas... c'est quand même pas commun, alors que ça devrait l'être.
Monsieur Macron, seriez-vous un bébé dans le divan ? Pour de sombres arguments de sécurité et de rentabilité, ils ont fermé la plus belle des maternités. La vie ne peut se soumettre à la rentabilité. Et la sécurité était assurée par un personnel compétent. Ils vont continuer à fermer les gares, les écoles, les préfectures pour ces mêmes raisons inacceptables. Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. Personne n'éduque autrui. Personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent entre eux par l'intermédiaire du monde.
Bravo!
Un petit dessin de mon fils né à Valence, c'est moi, en tant que père, galère l'hôpital de vie dans son intimité, seulement 1 million d'euros, par une déception totale, encore plus peur, la mère, la galère, passer. Alertez les bébés, il n'y a plus de maternité.
Aïna, ma fille, elle est née le 12 janvier dernier, donc 2018. Et donc la maternité de Di a fermé, si je me souviens bien, vers le 28 décembre 2017. Et donc moi, toute la fin de ma grossesse, c'était dans le stress et l'incertitude de savoir est-ce que, habitant à Di, est-ce qu'on allait pouvoir rester à Di ou pas. Sachant qu'on avait prévu de faire un accouchement à domicile avec des sages-femmes libérales. Et en fait, bon, je vais le faire, Mickaël.
Tu veux pas me laisser parler, hein, c'est ça ?
Bon, on avait prévu un accouchement à domicile à Di, et sans maternité à Di, on savait que ce serait pas possible de faire un accouchement à domicile. À la fin de la grossesse, on a dû trouver une solution en fait pour avoir un domicile proche de la maternité de Valence. Et donc on a fait un appel à plein de gens du Diwa pour.
C'est-à-dire que n'ayant plus de maternité à Di. Pour accoucher chez vous, il faut que vous soyez dans un périmètre par rapport à un hôpital.
Il
ou...
faut être dans un périmètre en gros de 45 minutes par rapport à un hôpital, une maternité, qui puisse nous accueillir en cas de transfert.
Donc à partir de ce moment-là, comme la maternité a fermé, vous cherchez une maison, des gens qui peuvent vous accueillir alors.
Voilà. Du coup, on a cherché quelqu'un qui pourrait nous prêter une maison. Pour la fin de la grossesse, à peu près les 2 dernières semaines et puis les 2 semaines après la naissance. Mais moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est que je me suis retrouvée assez isolée. Enfin, on était tous les deux, et heureusement, à ce moment-là, mon compagnon ne travaillait pas. Donc, on était tous les deux, mais on était juste tous les deux, quoi. Donc, on n'avait pas de soignants proches qu'on connaissait. Donc, notamment mon ostéopathe, ma médecin généraliste, ou bien un acupuncteur qui était aussi prêt à m'aider à déclencher s'il y avait besoin, mais par des méthodes naturelles. Donc moi, j'avais vraiment confiance d'avoir ces personnes autour de moi. Et là, en fait, on était à 35-40 minutes de Die. Donc c'était beaucoup moins facile de se déplacer. Surtout moi, en fin de grossesse, je pouvais presque plus me déplacer en voiture. Et il s'est trouvé que pendant l'accouchement, j'ai dû être transférée à l'hôpital parce que j'ai eu de la fièvre. Donc j'ai dû être transférée à Valence. Et en fait, je me suis retrouvée dans un environnement déjà qui était quelque chose que j'avais vraiment pas envie de vivre, mais bon, ça c'était, il fallait quoi, il y avait quelque chose de. Voilà, c'était comme ça. Mais c'est surtout que je connaissais pas l'équipe médicale. Et pour moi, c'était vraiment hyper important d'avoir confiance dans la personne qui allait m'accompagner pour cet accouchement, qui était mon premier accouchement en plus. Et aussi d'avoir confiance en fait dans les méthodes qui allaient être pratiquées. Et moi, en tout cas, en milieu hospitalier, j'ai pas confiance dans la manière dont les accouchements sont accompagnés, en fait. J'ai besoin d'un accompagnement qui soit plus en lien avec la physiologie de l'accouchement. Et là, pour moi, c'était vraiment beaucoup trop, je dirais, une médecine du risque, en fait. Il y a un risque, et donc pour pas qu'il y ait de problème, on va faire en sorte de prévenir ce risque, mais avec des produits. Donc voilà, du coup, j'ai vécu un accouchement qui était complètement différent de ce que j'avais imaginé. Et là, on était d'une à Cré, puis ensuite on était à Valence, donc en gros à 1h15 de chez nous. Ce qui fait qu'on a eu très peu de visites, on se sentait hyper isolé, hyper seul dans les décisions à prendre. Pour moi, c'était tout un contexte en fait vraiment très difficile de devoir être un peu comme expatrié pour un moment aussi fort en fait, et où on a autant besoin de soutien, parce que les quelques jours même après la naissance, on a besoin de soutien. Et du coup, nous, on était à Cré parce qu'on voulait pas non plus refaire le déménagement trop rapidement, parce que moi j'étais hyper fatiguée, et puis voilà, ça aurait été aussi beaucoup plus simple pour mon compagnon, parce qu'il a fait plein d'allers-retours entre Cré, Valence, entre Die et Cré, enfin voilà, pour lui ça a été aussi énorme à gérer quoi. Est-ce qu'il se rend compte que la décision de fermer la maternité à Die va avoir un impact aussi, enfin, c'est un impact dans la vie des gens, quoi. C'est pas juste une décision parce que, c'est plus rentable et donc voilà, faut fermer. C'est un impact dans comment les gens peuvent vivre sur un territoire.
La maison que vous aviez trouvée à Cré, c'était des gens, c'était des amis, c'était, vous avez lancé un appel, comment ça se passe?
En fait, on a lancé un appel par mail. Un peu sur le ton de l'humour, histoire d'essayer de prendre ça avec un peu de dérision, mais c'était « j'irai accoucher chez vous », donc au lieu de « j'irai dormir chez vous », je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Voilà, et ben on a envoyé un appel en disant « est-ce qu'il y a des gens qui pourraient nous prêter, dans l'idéal nous prêter, ou bien faire un échange d'une maison ou d'un gîte, ou voilà, un endroit où on avait donné un peu des critères nécessaires pour l'accouchement ?» Et en fait, il y a une dame qui partait en fait, à ce moment-là en voyage pendant un bon mois, et elle nous a prêté sa maison, elle nous a prêté en toute confiance sa maison, parce qu'on la connaissait vraiment pas. Donc voilà, elle était contente de contribuer à ce que ça puisse nous soutenir, quoi. Et à la fois, je trouve que c'est super, ça fait voir la solidarité qu'il y a de base entre les humains, mais bon, on se sentait quand même perdu, quoi.
Et tu disais, oui, mais le Diwa, c'est beaucoup de solitude.
Oui.
En même temps, ce qui frappe quand même, c'est de croiser des gens plutôt bienveillants, plutôt chaleureux, et puis avec des beaux mouvements de solidarité. Je vois là ce qui est en train de se mettre en place par rapport à la question de la maternité. Donc, il y a de la solitude, mais aussi il y a une solidarité particulière dans la vallée.
Ah, il y a une solidarité, comment pourrait-on dire, c'est très spontané ce qui se passe quand il y a un mouvement, c'est très spontané. Il y a d'abord l'expression de la colère, ça c'est sûr, mais ensuite les choses ne se résolvent pas non plus de toute manière. Et on a un pouvoir quand même en face qui est sourd à toutes les revendications. Donc je pense qu'il y a un découragement. Après, solitude, pour moi, ce n'est pas de l'individualisme non plus. Hein. On peut être solitaire en étant solidaire aussi.
Et dehors, ça sent le feu de bois. Et la nuit est tombée sur les Trois Becs et sur Roche-Colombe, sur la forêt de Sceaux. Et au fond, je vois la vallée, je vois des lumières. Et derrière une colline, je vois de la fumée ou des nuages.
Ici, on voit l'horizon à travers les montagnes. Réalisation Héloïse Plantrou et Yves Robic. Une production Le Grain des Choses, Radio Saint-Ferréol, avec le soutien du département de la Drôme.